La suite est connue, c'est-à-dire ça a été une énorme victoire sur mer des Grecs. La flotte perse a été à peu près réduite à un tiers, donc a fait demi-tour et rentré en Perse, et Xerxès avec. Bon, il s'en suivra des autres victoires grecques sur terre et en mer, etc. Mais la bataille clé était celle-ci. Donc, en battant la flotte perse en cette année 480, si vous voulez, les Athéniens ou les Grecs ont pratiquement sauvé notre civilisation, parce que je ne sais pas où on serait aujourd'hui si les Perses effectivement étaient passés et avaient conquis aussi le reste de la Grèce. Ça c'est la partie historique, mais après plus personne n'a su comment était faite une prière. Jusqu'à qu'un Anglais têtu, après 50 ans de recherche, ait finalement cru pouvoir reconstruire le navire. Mais il était bloqué pendant longtemps parce qu'il n'arrivait pas à faire un navire assez léger et assez rapide, jusqu'à qu'on découvre à Marseille des restes d'un bateau. Je saute. Voilà. Pour faire un navire assez léger et assez rapide, on ne peut pas les construire avec la technique habituelle, c'est-à-dire une charpente avec des bordées appliquées. C'est la coque est pratiquement autoporteuse, si on peut dire. Il y a bien sûr des renforts, mais ils sont secondaires. Et une fois que la coque est assemblée avec une technique particulière, elle est raidie avec des cordes de lin. Imaginez une caisse de violon. C'est-à-dire, le navire est tenu ensemble par les câbles. Il restait des autres problèmes, parce que ici vous avez la documentation existante sur la prière. C'est tout ce qu'on a. À part ce qu'ont écrit les historiens, de combien d'hommes il y avait, etc., mais sur un plan graphique, il n'y avait rien. Ce n'est quand même pas un petit morceau, parce qu'il fait 37 mètres de long. Alors, si vous prenez un petit port comme celui des Cassis et vous essayez de mettre dedans un bateau de 37 mètres, bien, vous en mettez peut-être un deuxième, mais pas un troisième. Et il y avait un équipage. En plus, c'était un bateau extrêmement élancé, parce que vous voyez une largeur de 5 mètres et demi pour une longueur de 37 mètres, c'est un rapport de 1 à 7. Or, un bateau normal, conventionnel, a un rapport de 1 à 3. Un voilier de plaisance aujourd'hui, par exemple. Donc, ça vous donne l'idée, c'était comme un bateau de compétition pour l'aviron. Et en effet, les performances y étaient. Il y avait 170 rameurs sur 3 rangs. Et ça, c'était un gros morceau aussi pour ceux qui ont voulu reconstruire, parce qu'on ne savait pas comment les caser. Si on les met tout bêtement l'un sur l'autre, si vous voulez, le centre de gravité est trop haut, et les navires, comme il n'y a pas de lest, il n'y a rien, le navire n'est pas stable. Donc, ils sont entassés. Je vous montre tout de suite. Sur 3 rangs, mais finalement, ils sont complètement imbriqués. Ils sont même tournés, si vous voulez, par rapport à l'axe du navire. Et ceux qui étaient les plus bas, donc les talamites, ceux qui étaient les plus près de l'eau, c'était ceux qui avaient la vie moins belle, hein, parce qu'ils mangeaient beaucoup de céréales, et sous l'effort, Il y a des choses qui s'échappaient. Donc, je navigue à vue. On connaît, pour des raisons historiques, la vitesse moyenne de ces bateaux, qui était de 7 nœuds, et on connaît la vitesse de pointe, qui était de 10-11 nœuds. Alors, qui a fait du bateau, qui a fait de l'aviron, a une idée de ce que cela signifie. Une vitesse de 10-11 nœuds était la vitesse nécessaire pour enfoncer les navires adversaires. Et, en réalité, ce navire n'était pas armé. Ils avaient une douzaine de soldats sur le pont, mais l'idée n'était pas d'aborder les bateaux adversaires. L'idée était d'être le plus rapide et le plus performant possible, d'éperonner les bateaux adversaires et de se tailler. Et dans les tests qui ont été faits après, dans la pratique, avec les navires reconstitués, les navires arrivent à tourner sur une longueur et demie, le navire, on arrive à faire demi-tour. Donc, il était extrêmement manœuvrable et rapide. Ils avaient deux techniques, donc une technique de perronnage et aussi une technique de passage à ras d'un autre bateau. Ils se dirigeaient à toute vitesse face à face avec un autre bateau et au dernier moment, les rameurs grecs rentraient les rames et ils cassaient les rames de l'autre. Cet équipage était un équipage de professionnels. C'était des gens qui étaient payés une drachme la journée, et qui s'entraînaient toute l'année. Il y avait 200, admettons, il y avait 200 et quelques navires dans la flotte d'Athènes, il y avait 90, c'était toujours à l'eau, et les gens s'entraînaient. Et finalement, la puissance de ce navire a donné une domination à Athènes sur les mers pendant un siècle et demi, mais quand ils ont essuyé une ou deux défaites, ce n'est pas le problème des navires à reconstruire qui les a bloqués, c'est la qualité des équipages, parce qu'ils ont perdu d'un coup une flotte de 200 bateaux. Ça fait 40 000 hommes, 40 000 rameurs. Donc, ils ont dû les remplacer par des esclaves, par des gens embauchés, mais la qualité n'y était plus. Et ils ont perdu la guerre du Péloponnèse. Alors, voici la prière dans ces œuvres. Pendant que la construction financée par le gouvernement grec et un banquier anglais avançait, les gens en Angleterre s'entraînaient sur les rivières pour descendre l'été ramés sur la prière. Et pour égaler les performances historiques. Ils n'y sont pas tout à fait arrivés, alors après on a trouvé comme prétexte qu'ils étaient trop grands. Ils avaient en moyenne 20 cm de plus que les rameurs grecs de l'époque. Mais ils ont quand même approché les performances. Voilà les rostres, les perrons, qu'on peut admirer en reproduction au musée du Vieux-Port de Marseille. Et voilà l'équipage de 200 personnes. Il y avait une douzaine d'officiers, sous-officiers, il y avait un commandant. Il y avait les navarques, c'est-à-dire les navarques étaient la personne qui avait payé les bateaux. Les bateaux n'étaient pas financés par l'État, ils étaient financés par des particuliers. Ils m'en demandaient pas autant, des fois. Différentes images, et la trière, qui s'appelle Olympias, à côté d'un petit ferryboat, donc ça vous donne une idée de la taille. Ce bateau avait aussi des voiles, et il a été question pendant un moment, est-ce qu'il combattait à la voile ou pas? La réponse est non, parce que les gens de combat impliquaient une manœuvrabilité parfaite, et à la voile, si vous voulez, pour peu que le bateau penche, le rameur du bas n'arrive plus à ramer. Donc, avant une bataille, les mâts, en tout cas les grands mâts et les voiles étaient déposés à terre avec toutes les autres choses dont on pouvait se passer, parce que les bateaux, pour le combat, ils devaient être vides. Si vides qu'on n'a jamais retrouvé aucune épave, parce qu'il était, il était complètement fait de planches de pin ou de sapin. Donc, quand un bateau coulait, en réalité, il ne coulait pas, il flottait, il y avait des planches qui flottaient partout, les gens les ramassaient s'ils pouvaient, mais on n'a jamais trouvé d'épave. Avant la Trière, il y avait des bateaux avec 2 fois 25 rameurs, donc à un moment donné, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut rendre les bateaux plus rapides? Si on continue à ajouter indéfiniment des rameurs, le bateau devient trop grand. Il faut environ 90 cm entre un rameur et celui d'avant et d'arrière. Donc, ils ont imaginé de les superposer. Et après la Trière, on retrouve dans les textes historiques des quadrilèmes, des quinquilèmes, etc., jusqu'à des Tessaracontres, c'est-à-dire un bateau avec 4000 rameurs. Donc, voici le schéma de ce bateau. La Pentecore et la Birème sont précédentes à la Trière, ou Trirème. Hein. Trière, c'est le nom grec, Trirème, c'est le nom latin. Ensuite, quand on dit quadrirème, etc., c'est pas qu'on rajoute de rangs superposés, on met 2 hommes par aviron. La quinquirème, donc la deuxième dans le rang, était les bateaux choisis après par les Romains, mais qui ont transformé, si vous voulez, la technique de combat. Eux, ils voulaient un bateau grand, stable, pour embarquer des soldats, ou même des armes, ou même des catapultes, si vous voulez, et combattre comme ils avaient l'habitude de faire sur terre. Donc, ils allaient à l'abordage. Ils ont adopté le... Je ne sais pas comment dire en français, c'est l'espèce de pont-levis qu'on baisse et qui aggrappe les bateaux adversaires. Quant aux autres navires, on n'a pas de preuves historiques, on n'a que le nom. Alors les gens se sont évertués à imaginer comment pouvait être fait un bateau avec 16 rangs. On a eu des cuirassés. Décrite assez dans les détails, les gens de description étaient, voilà, ce bateau a requis le matériel suffisant pour faire 15 trières, ou ce bateau a requis le matériel suffisant pour faire 60 trières. Et voilà une image. C'était des bateaux royaux, hein, ou bien du côté d'Alexandrie, ou bien de Syracuse. Le souverain voulait un bateau de parade avec des chevaux dedans, avec les sonats, tout ce qu'on pouvait avoir, et donc ils avaient construit des bateaux comme ça. Il n'y en a eu que 2. Bien. On arrête avec les bateaux. Bon, il y a évidemment les bateaux de transport, mais les bateaux de transport, si vous voulez, On les avait chez nous il y a peut-être 100 ans ou 150 ans. Donc, il n'y a pas eu de grands changements en réalité à travers les siècles. À part le gouvernail qui était externe et puis qui a été mis dans l'axe. Donc, je vais revenir à un autre sujet, c'est-à-dire comment on pourrait étudier des fois l'histoire d'un point de vue plus technique ou plus scientifique. Et je vais vous montrer 2 exemples. Ici, vous avez l'université de St. Andrews en Écosse. C'est une très vieille université, une des vieilles d'Europe. Et il y a une faculté où ils ont entrepris d'écrire les biographies de tous les martyrs saint-étienne de tous les temps. Si bien qu'on trouve, vous voyez, aligné par époque, là je s'est agrandi, voilà, entre 300 et 200 avant Jésus-Christ, BC c'est before Christ, donc c'est avant Jésus-Christ, mais c'est tout le long, hein, il y a toute la lignée historique. Alors, pour avoir un peu les idées plus claires, on peut faire vraiment un truc de physicien, c'est-à-dire on fait un graphique quand on veut voir comment évolue un phénomène. Moi, j'ai pris le nombre de pages de biographie de chaque mathématicien, j'ai multiplié par le nombre de mathématiciens, par année, donc ça commence à 500 avant Jésus-Christ, 300, 100, etc. Et vous voyez, ça c'est l'intensité des études, si on veut. Si on prend égal à 100 l'intensité des études, par exemple, au XVIIe siècle, on a le même coefficient dans cette période qui va de 300 à 150 avant Jésus-Christ. Suivi d'autres sursauts, si vous voulez. Donc ici, c'est la période que j'avais appelée hellénistique, c'est-à-dire la période après la mort d'Alexandre le Grand. Ici, c'est la période faste de l'Empire romain, où il y a eu suffisamment de paix et de prospérité pour que les études reprennent un peu. Ici, en 500 après Jésus-Christ, il y a eu la construction de Sainte-Sophie à Constantinople, qui a donc nécessité de bons mathématiciens, de bons architectes, etc., parce qu'il a quand même un dôme qui est assez impressionnant. Mais ce qui est plus intéressant, si vous voulez, ce n'est pas la taille du pic plus ou moins grand, mais c'est pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi tout à coup, par exemple, dans l'année 350, les études montent comme ça, et pourquoi il s'écroule ici, et ensuite, etc. Et alors, une fois qu'on se pose, vous savez, se poser la bonne question, c'est trouver la réponse, la plupart des fois. Donc, on va trouver la réponse à la première question. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour avoir une telle fioriture d'études? Alors, ce qui s'est passé, le voilà. L'empire d'Alexandre le Grand, à sa mort, a été partagé entre ses généraux, qui ont fondé des monarchies absolues, c'est-à-dire des dynasties, qui ont régné pendant des siècles. Bon, l'une peut-être un siècle et demi, deux siècles, jusqu'à trois siècles. Et ces royaumes étaient gérés par les Grecs, mais ils étaient déjà les sièges des civilisations très avancées, comme l'Égypte et comme la Perse et Babylone. Donc, les Grecs ont pris leur savoir-faire, ils l'ont mélangé avec le savoir-faire des populations locales. C'était des royaumes énormes, donc riches. Il fallait une administration, il fallait des transports, il fallait du commerce. Donc, ça donnait une impulsion énorme au développement. Ici, nous avons trois royaumes. Il y a eu une période quand même de bataille, mais après 30 ou 40 ans, ça s'est stabilisé en trois royaumes. Les Séleucides, les Antigonides en Grèce et Macédoine, et les Ptolémées en Égypte. Je reviens un instant en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé alors à la chute? Qu'est-ce qui a provoqué ce désastre? Réponse. En 50 ans, les Romains ont conquis tous les domaines grecs. Et les Romains de l'époque, si vous voulez, n'étaient pas les Romains comme Virgile ou Cicéron, etc. C'était des brutes. Des brutes ignorants, ils comprenaient rien à rien à la science et ils n'en avaient rien à faire. Donc, pratiquement, ça a stoppé net toutes les études et la rédaction d'œuvres scientifiques. Doucement, avec le temps, des Romains plus cultivés se sont épris de la culture grecque, ont commencé à étudier, etc. Mais c'était déjà presque trop tard. En tout cas, ce qui a donné le coup de grâce, c'est qu'Auguste, qui était le premier empereur et qui a régné très longtemps, il a régné de près de 50 ans, il n'était pas du tout intéressé à la science. Et donc ça a donné le là pour la suite. Maintenant, si on poursuit nos courbes. Donc, on voit qu'entre 700 et 1300, il y a bien sûr les Arabes. Les Arabes, de toute évidence, ils ont pris la région qui était avant grecque. Donc, ils ont retrouvé sur place les textes des gens qui s'y connaissaient encore, etc. Et dès qu'ils ont commencé eux-mêmes à avoir le même problème, c'est-à-dire qu'il fallait gérer des énormes régions, il fallait les organiser, il fallait instruire les gens, il fallait avoir des cadres, etc. Et ils ont réutilisé tous ceux qu'ils ont trouvés comme savoir existant. Ensuite, la civilisation arabe décline. Disons, c'est les guerres entre les Émirats, etc. Et il y a une période qui mène à la Renaissance en Europe. Qu'est-ce qui a déterminé donc ce changement en Europe? Oups là. Vous voyez? On sait que en Europe, on a hérité à peu près du savoir des Arabes, en tout cas des œuvres grecques qui étaient traduites en arabe, et ça s'est passé assez rapidement. Ici, il y a ce qu'on appelle la reconquista, c'est-à-dire les Espagnols d'Isabelle de Castille qui ont repris l'Espagne aux Arabes. À l'exception de l'émirat de Grenade qui lui durera jusqu'en 1492. Et au départ, lors de la conquête, si vous voulez, les Espagnols n'étaient pas intolérants. Ils ont gardé les gens. Il y avait plein de Juifs, il y avait plein d'Arabes, il y avait plein de gens qui étaient là avant. Donc ils ont gardé tout ce monde ensemble et ils ont acquis beaucoup de connaissances avant le reste de l'Europe. Ici, à la même époque, en Sicile, il y avait Frédéric II de Souabe qui avait conquis, donc il s'était retrouvé, il était empereur de l'Empire romain, et il s'était retrouvé avec une Sicile aussi pleine d'Arabes, pleine de Juifs, etc. Et lui, tous les savants qu'il trouvait, il les appelait à sa cour pour qu'ils discutent entre eux. Lui, il a été appelé le stupor mundi, c'est-à-dire l'étonnement du monde, et sa cour a été appelée la Magna Curia. Donc, si on peut dire, à partir de 1200, les œuvres scientifiques commencent à revenir en Europe. En 1204, autre épisode, la quatrième croisade qui devait aller reconquérir l'Égypte a été, et qui était essentiellement constituée de Vénitiens et de Francs. Et les doges de l'époque qui commandait la flotte, qui s'appelait Dandolo, qui avait 80 ans, il était presque aveugle, il a dérouté la croisade pour aller prendre Constantinople. Et il a ramené à Venise les quatre chevaux en bronze qu'on peut admirer sur la façade de Saint-Marc. Et avec, donc, Constantinople a été mise à sac, et les marchands vénitiens ont très tôt compris que les rouleaux, c'est-à-dire les livres, étaient une marchandise très profitable, qui ne pesait rien. Ils pouvaient les avoir facilement, non seulement lors du sac de Constantinople, mais dans toutes les îles et les côtes où ils faisaient leur commerce. Et ils ont commencé à ramener par bateau entier, si vous voulez, de rouleaux en Italie. Alors, de l'Italie, ça allait à Venise, ça allait à Florence, ça allait à Rome. De Rome, ça allait partout en Europe, parce que c'était les prêtres, les gens qui étudiaient à l'époque. Ça c'est la deuxième vague. La deuxième vague arrive 200 ans plus tard. Ça, c'est l'année où les Turcs ont pris Constantinople. Alors, la dernière population qui restait à Constantinople, surtout les prêtres, les religieux, etc., ont pris leurs affaires sur les bras et se sont rendus en masse en Italie. Et après, ils sont partis partout en Europe. En 1492, non seulement on a découvert l'Amérique, mais les Espagnols ont conquis l'émirat de Grenade. Et là, même topo, c'est-à-dire ils ont trouvé des gens cultivés, des livres, tout ce qu'on voulait. Maintenant, un mot sur Ératosthène. Pour vous donner une idée de qu'est-ce que j'entendais quand je vous disais qu'Ératosthène était un scientifique d'envergure qui ferait son effet encore aujourd'hui. Alors, tout le monde a lu, une fois ou une autre, dans les livres d'école, la façon dont Ératosthène a mesuré la Terre. C'est-à-dire qu'on avait découvert que à Sienne, qui est aujourd'hui à Suan, il n'y avait pas d'ombre dans les puits à midi du jour du solstice d'été. Et au même moment, à Alexandrie, avec une perche, si vous voulez, Ératosthène a déterminé l'angle que faisait le rayon du soleil avec la verticale. Et à partir de cet angle, qui est un cinquantième de tour complet, il n'a eu qu'à multiplier la distance entre Alexandrie et Sienne pour les facteurs 50 pour obtenir la circonférence de la Terre. Ceci, c'est un petit croquis. Donc, il y avait 5000 stades. Laissons tomber les stades pour l'instant. On multiplie 5000 fois 50 et on a le parcours de la Terre. Alors, pour la distance entre Alexandrie et Sienne, la personne qui est Cléomède, qui relate cette œuvre, dit qu'il a demandé au chamelier. Alors, moi je dis que dire qu'Ératosthène a demandé la distance au chamelier, c'est comme dire que Christophe Colomb aurait demandé son chemin au pêcheur d'anchois portugais pour savoir où était l'Amérique, vous voyez. On dit aussi dans la description simplifiée que Alexandrie et Sienne étaient sur le même méridien, donc on n'avait pas à s'encombrer d'autres problèmes pour déterminer la distance. Alors tout ça est faux. Vous voyez, Sienne n'est pas sur le même tropique. Sienne d'abord n'est pas sur le tropique. Le tropique, il est ailleurs. C'est-à-dire, le tropique, ce serait la ligne où vraiment le soleil est à la verticale lors du solstice d'été. On a parlé de Sienne parce que c'est l'endroit le plus proche. On ne pouvait pas dire que le tropique est au milieu du désert quelque part. Mais en réalité, il a fallu un nombre incalculable de mesures pour déterminer non pas la position du tropique, mais une bande de 300 stades où le tropique qui délimitait, si vous voulez, la position où les tropiques pouvaient être. Ensuite, Alexandrie n'est pas sur le même méridien que Sienne, donc la mesure, on ne peut pas la faire d'une façon aussi simple, il faut tenir compte. Ou alors, il faut trouver un endroit sur le même méridien, ou sinon, il faut faire des corrections. Quant au puits, il a été construit après coup pour démonstration. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille? Si vous voulez, quand on parle d'une mesure, rien ne sert de dire comment elle a été faite. Il faut se préoccuper de la précision. Or, la précision de la mesure d'Ératosthène est de 0,8%, qui est une précision exceptionnelle. Non seulement pour l'époque, mais pour les 1500 ans, pour les 2000 ans qui ont suivi, parce que la mesure suivante avec une précision comparable, c'est celle de l'abbé Picard en 1696. Avant, il n'y en a plus eu, plus jamais. Et pour se convaincre que la mesure d'Ératosthène était précise, ce n'était pas un coup de chance, on a qu'à prendre les autres données qu'Ératosthène donne. Il donne des distances de villes, par exemple. Elles sont toutes précises à 0,5%. Donc, il savait mesurer les distances avec cette précision. C'est au passant, c'est lui qui a introduit une chronologie pour les Grecs qui était basée sur les Jeux Olympiques. On disait 2 ans après les Jeux Olympiques, tel et tel ou tel a gagné, pour avoir une référence. Donc, encore aujourd'hui, en dépit du GPS, si vous voulez, pour naviguer en pleine mer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un système de coordonnées. C'est-à-dire, il faut avoir l'idée d'une géographie scientifique avec des méridiens et des parallèles. Il faut avoir des cartes fiables et il faut être capable de faire les points, c'est-à-dire de déterminer où on est, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir s'éloigner des côtes. Et les anciens se sont éloignés des côtes parce que ils sortaient de la mer Rouge et après ils pointaient directement sur l'Inde. Ceci à partir de 200 avant Jésus-Christ et jusqu'à 150 après Jésus-Christ. Parce que les Romains, avec Auguste, ils avaient des centaines de navires qui faisaient les commerces avec l'Inde. Les voyages duraient 4 ans et ils avaient appris à se servir et on a retrouvé les pièces romaines dans les ports d'Asie du Sud, et ils avaient appris à se servir des monçons, c'est-à-dire on peut revenir vers l'Afrique en hiver, parce que le vent souffle comme ça, et il faut aller en Inde l'été. C'est tout. Donc, il y a une petite œuvre pour ceux qui se laisseraient attiré par l'histoire ancienne, il y a un petit bouquin qui est très bien fait, qui est à moitié graphique et à moitié texte, et qui vous raconte pratiquement tout. C'est de là que j'ai tiré les cartes des explorations, par exemple. Et pour ceux qui pourraient aller sur Internet, ils peuvent trouver des autres documents. L'histoire du canal de Suez a été distribuée, mais par exemple la reconstruction de la Trière ou la connaissance de la forme de la Terre sont des autres documents. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, c'est grave, ce que je veux dire. Jetez-vous à l'eau. Donc, tout était clair. Ben, c'est vraiment exceptionnel.
De la rotondité de la
Terre. Toujours, depuis toujours. Oui. Alors, ben justement, c'est drôle parce que j'ai eu la même question la première fois que je présentais ce sujet. Et comme je n'étais pas capable de répondre d'un coup, j'ai regardé après et j'ai écrit un papier. Donc. Mais je peux vous répondre donc maintenant. Au fait, depuis quand la Terre est ronde? Déjà à l'époque des philosophes grecs, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, on savait que la Terre était ronde. On le savait par des observations banales, c'est-à-dire, bon, il y a l'argument du bateau dont on voit apparaître les mâts avant la coque. Il y a aussi le fait que quand on se déplaçait, la hauteur des étoiles, bon, l'étoile polaire, par exemple, elle a été très vite repérée, mais la hauteur de la polaire n'est pas la même, suivant si on se déplace vers le nord ou vers le sud. Un peu plus délicat était, bon, la Terre aurait pu être un cylindre, évidemment, hein. Donc c'était un peu plus délicat de comprendre que la Terre était ronde aussi dans le sens de la longitude, quand on se déplaçait vers l'est ou vers l'ouest. Et là, justement, quand j'ai dit qu'Ératosthène avait expliqué aux autres comment déterminer la longitude, on prenait une éclipse de lune et on mesurait à quel moment par rapport au midi, par exemple, l'éclipse se vérifiait, et on avait une différence de temps. Et cette différence de temps était traduite en un temps de rotation de la Terre. Donc, en observant toutes sortes de phénomènes astronomiques, comme les éclipses ou des occultations d'une étoile par une planète, par exemple, etc., pouvaient donner des façons de déterminer la longitude.
Oui, mais comment? Là, j'ai posé la question de la profondité. Ça n'explique pas pourquoi, puisque l'on savait 500 ans avant Jésus-Christ que la Terre était ronde,
oui. Ça
n'explique pas pourquoi, à l'époque romaine, on était absolument persuadé que la Terre était ronde.
Mais parce que les connaissances se perdent, malheureusement. Il est beaucoup plus facile de perdre les connaissances que de les construire. Et nous, dans l'histoire que j'ai tracée, on a risqué à plusieurs reprises de tout perdre. Christophe Colomb, par exemple, il était convaincu que son voyage serait deux fois plus court. C'est pour ça. On avait oublié la longueur du stade, on avait oublié les dimensions de la Terre. C'est-à-dire, on savait la latitude et longitude, mais on ne savait pas combien faisait le degré de méridien. Donc lui pensait que la dimension de l'Asie et de l'Europe était beaucoup plus grande par rapport au parcours de la Terre. Donc il pensait qu'il lui restait à faire qu'à peu près un tiers du périple pour retrouver la côte de l'autre côté. C'est pour ça qu'il croyait être arrivé aux Indes quand il est arrivé aux États-Unis. On avait perdu